Bon, très bien. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais d'abord faire un petit rappel des épisodes précédents, c'est-à-dire ce qui a été présenté la semaine dernière. Et puis, je reprendrai la présentation un petit peu plus détaillée à partir d'une des diapositives que je vais reprendre, parce que je trouvais que la semaine dernière, j'avais été obligé de la faire un petit peu au galop dans les 7-8 dernières minutes. Donc d'abord, quelques rappels sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Premièrement, je vous avais dit que j'allais me focaliser, puisque ça avait été mon sujet d'étude sur ces 7-8 dernières années, que j'allais me focaliser sur la période 1830-1835, qui est une période, on l'avait expliqué, qui était une période extrêmement dense de l'histoire politique, économique française. C'est une période que, bien sûr, sur laquelle j'ai été obligé de me focaliser, puisque le journal des Canuts sur lequel j'ai travaillé est publié de 1830 à 1835. Mais c'est une période qui débute avec la révolution de 1830, une grande révolution des libertés, très certainement comparable par certains côtés, par certains acquis en matière de citoyenneté civile, politique, voire économique, comparable à ce qui s'était fait en 1789 et ce qui se fera une quinzaine ou une vingtaine d'années plus tard en 1848, notamment entre février et juin 1848. La période commence là, il y a tout un ensemble d'événements qui sont des événements marquants à Lyon, à Paris, en France, dans toute cette période, dont en particulier pour Lyon, les deux insurrections, novembre 1831, avril 1834, la première parution de ce journal sur lequel j'ai travaillé, l'Écho de la Fabrique, la deuxième insurrection, avril 1834, puis un grand procès en 1834-35, et elle se clôt, cette période. On peut considérer que c'est une période qui est relativement facile à identifier, parce qu'elle se termine en fait en septembre 35, un mois après un attentat qui visait le roi, et dont il sort indemne, le roi Louis-Philippe, le gouvernement de Louis-Philippe, qui a depuis 1830 pris une pente de plus en plus conservatrice, le gouvernement de Louis-Philippe suspend tout un ensemble de libertés qui avait permis justement cette explosion du début des années 1830, et principalement liberté du jury, mais la liberté de la presse. Et donc le corpus sur lequel nous, on avait travaillé, qui était ce corpus initial de l'Écho de la Fabrique, du journal des Canuts de Lyon, s'arrête brutalement fin du mois d'août 1835. Pour voir réapparaître ce type de presse, il faut à peu près 4 ou 5 ans, et en 1840, on voit réapparaître à Lyon, mais aussi au-delà de Lyon, on revoit apparaître ce type de presse centrée sur une industrie comme l'industrie de la fabrique, et ça va jusqu'à 1848. Donc voilà, il y a eu ce premier balisage. Le deuxième point qui était important, c'est, je vous avais dit, on va essayer, dans le cadre de ces présentations, de revenir de façon un tout petit peu transversale sur un certain nombre d'acquis, sur un certain nombre d'idées qu'on s'est fait ces deux derniers siècles et demi, sur les Canuts, sur l'industrie de la soie, sur l'économie de la fabrique. Et donc, la première transversale que je prenais, c'était... J'interrogeais cette image qu'on a du Canut en tant qu'ouvrier. Et je disais, il faut faire extrêmement attention parce que le Canut ne ressemble que de très loin, ou ressemble très peu finalement, à l'image qu'on se fait de l'ouvrier l'ouvrier du capitalisme industriel au XIXe siècle, qui était l'ouvrier de manufacture, l'ouvrier de la manufacture concentrée. Les ouvriers étaient rassemblés dans les manufactures, le travail était divisé, parcellisé, spécialisé. Et donc s'est créé à ce moment-là une classe ouvrière. Ça correspond beaucoup plus à l'image du second XIXe siècle français. Les Canuts, eux, travaillaient dans un système qui était complètement différent et qui va, en quelque sorte, modeler, que eux-mêmes vont travailler constamment ce système, mais ce système va également les déterminer. Ou du moins les spécifier. Ce système de la manufacture dispersée, le système plutôt de la fabrique de Lyon, qui est l'industrie de la soie, et un système, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, le système de la manufacture dispersée. C'est-à-dire, c'est tout un réseau, finalement, de petits ateliers en soierie, composés de deux, en moyenne, de 2 à 8 métiers, là, la médiane étant à 4-5 métiers, et qui est dispersé sur un certain nombre de territoires, de Lyon à cette période-là. Donc le territoire de la Croix-Rousse, le territoire du Vieux-Lyon, un certain nombre sont à Vaise, à la Guillotière, il y en a quelques-uns à la Guillotière, et puis il y a des métiers qui sont en dehors de Lyon. Ce système de la manufacture dispersée, ce sur quoi j'avais insisté la semaine dernière, là encore très rapidement, c'est sur le fait que c'est un système manifestement très complexe, avec des ateliers qui se situent un petit peu partout, on a longtemps considéré une certaine lecture historique et industrialiste du XIXe siècle a considéré que finalement ce système de la manufacture dispersée, ce système d'ateliers, était en quelque sorte représenté une première phase du développement industriel, une phase qui était de toute façon appelée à être supplantée que ce modèle était appelé à être supplanté par un modèle plus productif, supérieur, plus rationnel, plus efficient, qui était le modèle d'abord de la manufacture concentrée dont on vient de parler, et puis ensuite le système de l'usine. Bon. Les recherches qui se sont faites depuis une vingtaine ou une trentaine d'années se sont intéressées aux alternatives qui pouvaient y avoir, les alternatives qui se sont développées au XIXe siècle au système de la production de masse. Et donc, un certain nombre d'historiens depuis 20-30 ans ont réétudié des systèmes de manufacture dispersés du type de l'économie de la fabrique de Lyon. Or, la découverte a été double. C'était que, premièrement, c'était des systèmes qui étaient extrêmement productifs, qui étaient extrêmement rationnels, et c'était des systèmes qui étaient évolués dans le sens où c'était des systèmes qui reposaient pour la plupart sur un certain nombre d'innovations technologiques, mais aussi institutionnelles. Donc c'était des systèmes qui étaient évolués sur ce plan-là. Et deuxièmement, c'était des systèmes qui étaient donc évolués sur le plan, si vous voulez, économique et technologique. Et c'était également des systèmes qui étaient évolués sur un plan plus social et institutionnel. Parce que ce qu'a permis d'approfondir ces recherches historiques, ça a été la découverte ou la recherche des mécanismes de régulation entre les principaux acteurs de ce type d'industrie qui s'était mis en place au XIXe siècle, mais également en amont au XVIIIe siècle. Par exemple, il y a tout un courant de la recherche historique à l'heure actuelle qui s'est développé et qui revient sur l'image qu'on s'était fait sur l'économie corporatiste, enfin l'économie des corporations au XVIIIe siècle. En montrant, ces recherches récentes montrent que finalement on a longtemps considéré les corporations comme des systèmes totalement figé, alors qu'en fait, c'était des systèmes qui produisaient de l'innovation, qui bougeaient, alors ils bougeaient sur certaines marges, mais c'était des systèmes qui bougeaient et qui avaient une certaine souplesse. Donc, le système de la manufacture dispersée de Lyon, le système donc qui organise l'économie de la fabrique, l'économie de la soie lyonnaise, est organisé sur ce modèle de la manufacture dispersée. On l'avait dit, dans le cadre de ce modèle productif, les principaux acteurs sont d'un côté les commanditaires et les négociants qui sont eux-mêmes extrêmement dynamiques, qui sont tournés sur les marchés extérieurs, qui sont tournés vers les marchés extérieurs, qui ont des pratiques commerciales, qui sont des pratiques commerciales avec les échantillons, qui sont des pratiques commerciales extrêmement agressives, extrêmement innovatives. Ils reviennent, ils anticipent et parfois ils produisent la mode sur les marchés à Londres, mais également ils vont à New York, il y a des comptoirs qui étaient ouverts en Amérique latine, à Buenos Aires par exemple. Donc ils sont extrêmement actifs sur le plan commercial, extrêmement innovatifs sur le plan commercial. Ils reviennent avec une anticipation de la mode de l'année et donc les différents tissus qui, selon eux, vont percer sur les marchés nationaux et internationaux sont après commandés aux différents ateliers, suivant la spécialisation des ateliers, à Lyon. Donc le deuxième principal acteur de cette économie de la manufacture dispersée est le chef d'atelier. Qui lui-même produit les étoffes de soie, qui produit les différentes étoffes de soie qui sont commandées par le négociant. Un troisième acteur dont on a parlé a été le compagnon, puisque le chef d'atelier, lui, dirige l'atelier où il y a 2 à 8 métiers, il peut avoir sous ses ordres, non seulement, enfin, travaillant sous son autorité, non seulement sa famille, mais également 2, 3 ou 4 compagnons. Donc on a les deux acteurs principaux dans cette période-là, bon, on pourra en discuter après, mais les deux principaux acteurs sont d'un côté le négociant, donc qui commande, qui anticipe la mode et qui commande, et de l'autre côté le chef d'atelier qui, lui, dirige ces petites manufactures, en fait, qui étaient des manufactures de 2 à 8 métiers. Le dernier point sur lequel on avait insisté en disant, bon, finalement, ça ne ressemble pas beaucoup à des ouvriers d'usine tels que le décrit Victor Hugo dans la deuxième partie du XIXe siècle. Ça ne ressemble pas vraiment à ce genre de choses, aussi parce que ces canuts de Lyon se caractérisaient également par un très haut niveau sur le plan culturel, et l'alphabétisation était extrêmement importante dans la population canue. Il lisait, il y a une proximité entre le tissu et le texte, et les canus lisaient les différents tissus. Ils étaient très souvent, bien sûr, ils avaient cette compétence, mais ils avaient très souvent la compétence complémentaire qui faisait qu'ils étaient capables de lire. Ils avaient un niveau de lecture qui était assez important. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le journal dont je vous ai parlé sera créé à Lyon. Bon, on avait parlé un petit peu de ça, ça je laisse tomber. Ça, je le reparlerai après. Et puis, je voulais repartir de là, en fait. Parce que la semaine dernière, on avait fini sur cette diapositive. Et puis, bon, je trouvais que ça avait été fait vraiment de façon un tout petit peu trop rapide. Et donc, je voudrais revenir là-dessus. Une deuxième question, une deuxième transversale que je prends par rapport un petit peu à cette image qu'on s'est fait du peuple canu, c'est novembre 1831, donc point de départ du mouvement social lyonnais. Pendant très longtemps, je le racontais un petit peu dans l'autre diapositive, pendant très longtemps, on a étudié et on a mis en perspective le canu par rapport à des événements historiques, qui étaient des événements historiques soit antérieurs, soit postérieurs. Pendant très longtemps, on a considéré une certaine opinion, entre guillemets, conservatrice, finalement, à considérer que les canus qui se révoltent de façon violente, selon eux, en 1831, étaient, je donnerai la situation globale tout à l'heure, étaient finalement des barbares. C'était des gens qui ne comprenaient absolument pas, la modernité politique avec la charte de 1830, la modernité économique avec la révolution industrielle qui s'était mise en branle. Ils ne comprenaient pas, c'était finalement la dernière révolte des ouvriers d'ancien régime. Pendant très longtemps, on les a vus donc finalement en retard sur leur époque. C'est pas la principale interprétation qu'il y a eu depuis deux siècles, parce que l'interprétation qui a dominé a été plutôt de considérer qu'ils étaient plutôt finalement les tout premiers exemples à l'heure du capitalisme industriel en France, c'est-à-dire dans ces années 1815-1848, ils étaient les premiers travailleurs à être confrontés finalement à la logique nouvelle du capitalisme, et donc ça allait être les premiers travailleurs à expérimenter la nécessité de la lutte des classes. Pendant très longtemps, il y a eu cette interprétation-là, donc on a interprété les canuts comme finalement les toutes premières esquisses de ce qui allait se faire de façon beaucoup plus marquée dans le deuxième 19e siècle et puis finalement au 20e siècle. Par rapport à cette interprétation, finalement, qui verrait, et donc ça c'est une interprétation qui a été très forte, de dire finalement 1831 c'est encore en quelque sorte l'irruption. C'est vraiment l'acte de naissance du mouvement ouvrier. Par rapport à cette interprétation, là encore, nombre de recherches récentes permettent de nuancer ce point de vue en montrant comment finalement ce qui va se passer en 1831 charrie bien sûr de la nouveauté, il y a une insurrection et cette insurrection frappe toute l'Europe, non seulement les Lyonnais, mais également bien entendu le gouvernement de Casimir Perier à Paris et le roi Louis-Philippe, mais également on en a trouvé la trace, les Anglais sont au courant, donc quand on regarde la Pauper Press, c'est-à-dire la presse pauvre, radicale anglaise à Londres ou autre, on se rend compte qu'ils sont au courant de ce qui se passe à Lyon, donc ça a été un événement très fort. Donc effectivement il se passe quelque chose de neuf à ce moment-là, mais également il faut nuancer l'opinion qui consiste à dire que c'est véritablement un point de départ absolu. Donc concernant cette opinion, c'est ce que je n'avais pas fait la semaine dernière et c'est pour ça que j'ai voulu y revenir un petit peu. Quelques citations d'abord face à cette insurrection. Première citation. Celle de Friedrich Engels, le compagnon de route de Karl Marx en 1848 dans la Gazette Rhénane. Il écrit l'histoire, donc il écrit au moment même où on est juste après la période qui va de février à juin 1848, donc la phase la plus haute finalement de la révolution de 1848 qui aboutit au désastre de juin 1848. Donc Engels observe ce phénomène-là et il écrit, donc je le cite, « L'histoire ne nous offre que deux moments ayant quelques ressemblances avec la lutte qui continue probablement en ce moment à Paris. » Et donc Il parle des luttes parisiennes de juin 1848, et donc il continue ces deux exemples. Donc c'est la guerre des esclaves de Rome et l'insurrection lyonnaise de 1834. Donc on a eu la première fois cette idée d'une nouveauté radicale. Deuxième témoignage que je voulais vous mentionner, celui de Chateaubriand, lendemain, mois de décembre 1831, dans la revue européenne, il est stupéfait de ce qui s'est passé à Lyon. Il est stupéfait surtout comme nombre de commentateurs. Ce que les commentateurs ont trouvé le plus stupéfiant, je l'ai dit la semaine dernière, à l'époque, ça a été le fait, pas simplement que les ouvriers en soi à Lyon avaient battu à plate couture la troupe, les troupes du roi, et les avaient mis en dehors de la cité. Ce qui les a le plus stupéfaits, c'est le fait que la cité n'a pas été livrée au chaos à ce moment-là. Et que finalement, les ouvriers en soi de Lyon, chefs d'atelier, bon là je m'étendrai pas sur la composition exacte, mais ont été en mesure finalement, en période de combat, d'assurer l'ordre dans la cité. Ça stupéfait les commentateurs, et Chateaubriand écrit à ce propos, je le cite, « Cet ordre établi dans le désordre par les ouvriers, il parle de ce gouvernement qui s'est mis en place dans la cité de Lyon après le 23 novembre 1831 et qui a duré une dizaine de jours, cet ordre établi dans le désordre par les ouvriers annonçait la fin d'une société et le commencement d'une autre. » Donc là, de nouveau, on a cette idée d'une apparition. Le troisième témoignage que je voulais mentionner, on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière, c'est le témoignage d'un publiciste qui s'appelle Saint-Marc Girardin, qui juste là aussi, en 1831, en décembre 1831, soit 10 à 12 jours, une dizaine de jours après la première insurrection, écrit un texte qui frappe énormément l'opinion. Il y a énormément de gens qui se positionnent par rapport à ce texte, qui trouvent trop brutal, finalement trop lucide, par certains côtés trop lucide, trop brutal et autres. Voilà ce qu'écrit Saint-Marc Girardin aujourd'hui je ne me rappelle plus le terme de la le nom de la rue. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit « La sédition de Lyon a révélé un grave secret. » Donc quelque chose là encore de tout à fait neuf. Celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Et il parle à propos de celle qui ne possède pas, il utilise le terme « la population prolétaire ». Il dit ça, c'est une véritable plaie qui est en train de se développer, une plaie tout à fait nouvelle qui est en train de se développer au début des années 1830, qu'on n'avait pas repéré auparavant. C'est une plaie et c'est surtout un énorme risque, pour utiliser le vocabulaire de l'époque, c'est surtout un énorme risque pour la stabilité, ordre et progrès, de l'organisme social. Voilà ce qu'il écrit. Par la suite, chaque fabricant vit dans sa fabrique, donc là il parle des négociants, comme les planteurs des colonies au milieu de leurs esclaves, 1 contre 100. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. Donc là, il fait référence à l'insurrection des esclaves noirs à partir de 1791 à Saint-Domingue. Il poursuit un petit peu plus loin, c'est la phrase qui avait été citée qu'on avait mentionnée la semaine dernière et qui avait été citée par le monsieur. Il poursuit, donc Saint-Marc Girardin poursuit, les barbares qui menacent la société ne sont point aux Cosaques ou dans les steppes de la Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Il poursuit encore, il explique à ce moment-là, Saint-Marc Girardin explique que face à cette situation complètement nouvelle, la classe moyenne, il parle finalement des lettrés de l'époque, il parle des élites politiques, il parle des élites économiques, bien sûr cette classe, dans cette nouvelle situation où il y a une partition entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, cette classe moyenne et supérieure ne doit pas être ce qu'il appelle lui cruel, enfin ce qu'il dit être cruel et tyrannique. Mais il poursuit, il dit, elle serait complètement folle si, je le cite, éprise de je ne sais quel principe démagogique, et là il parle principalement des républicains qui à ce moment-là voulaient donner des droits politiques à l'ensemble de la population, si éprise. Pardon, excusez-moi. Si éprise de. Donc il parle de cette classe moyenne, si éprise de je ne sais quel principe démagogique, elle donnait follement des armes et des droits à ses ennemis. Il parle des ouvriers. Si elle laissait entrer le flot des prolétaires, il utilise de nouveau ce terme qui est relativement neuf à ce moment-là. Si elle laissait entrer le flot des prolétaires dans la garde nationale, dans les institutions municipales, dans les lois électorales, dans tout ce qui est l'État. Donc il y a bien cette idée, il faut à la fois, par rapport à cette, oui, par rapport à cette question qui est posée là, cette question transversale, il faut comprendre, je crois qu'on travaille sur cette période des insurrections, il faut comprendre en quoi il y a effectivement quelque chose, par partie, quelque chose de neuf qui se déroule à ce moment-là, mais également, et ça c'est ce que je vous disais, ça vient des recherches qui se sont faites sur le plan historiographique récemment, comprendre aussi en quoi cette situation-là n'est pas un point de départ absolu, et en quoi elle a été portée par une évolution économique, civile, culturelle, sociale, tout ce que vous voulez, qui s'est déroulée à Lyon sur la plus longue durée, en particulier sur la fin du XVIIIe siècle, et les 30 premières années du XIXe siècle. Donc, pour comprendre ce fait-là, il faut d'abord rappeler, on parle de ces insurrections, mais il faut parler de l'ancienneté, il faut rappeler l'ancienneté des conflits dans l'industrie de la soie lyonnaise, plus encore qu'au XVIe et XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Il y a des insurrections assez importantes, très importantes à Lyon, des ouvriers en soie, en 1744 et en 1786. Qu'est-ce qui est en jeu au moment de ces, qu'est-ce qui est en jeu dans ces insurrections? Ce qui est en jeu, basiquement, c'est l'asymétrie de pouvoir entre les deux acteurs qu'on a distingués tout à l'heure, c'est-à-dire, d'un côté, le négociant ou le commissionnaire, et de l'autre, le chef d'atelier. Chaque fois qu'il y a la relation entre ces deux acteurs de la fabrique devient une relation trop déséquilibrée, on est dans une situation qui est une situation quasiment insurrectionnelle, ou une situation de soulèvement. Pourquoi? Parce que si l'équilibre ou le relatif équilibre entre ces deux acteurs de la fabrique et cette fabrique qui continue à produire des biens de luxe et des biens de très haut niveau sur la longue durée, donc, qui vit de l'innovation, si un certain nombre d'acteurs de cette industrie ne coopère plus, finalement cette industrie-là ne fonctionne plus. Or, tout au long du XVIIIe siècle, les fabricants d'un côté, les maîtres fabricants d'un côté et les maîtres ouvriers d'un autre côté, se battent par exemple sur les tarifs. Ils se battent sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait une tarification des étoffes de soie, une tarification minimale des étoffes de soie. C'est ça que réclament les chefs d'atelier. Les chefs d'atelier réclament que les commandes qui leur sont faites soient payées à un prix des façons, qui soit un prix des façons, qui leur permette non seulement de vivre, donc ce qu'ils pourront appeler, ce qu'ils appelleront après 1830, dans le code de la fabrique, qui s'appelleront l'émancipation physique, donc c'est-à-dire d'avoir un budget qui soit un budget correct, mais également, finalement, de se cultiver, d'avoir une sociabilité importante, ce qu'ils appelleront l'émancipation morale. Donc tout au long du XVIIIe siècle, on se rend compte finalement qu'il y a également des insurrections dans le cadre de l'économie de la fabrique. On remarque aussi qu'il y a des insurrections, il y a des conflits, mais il y a également, tout au long du XVIIIe siècle, des régulations qui se mettent en place, soit par les acteurs eux-mêmes, donc ces deux acteurs parfois antagoniques, mais soit par les acteurs eux-mêmes, soit par la municipalité, pour éviter que ces conflits à l'intérieur de cette industrie qui rapporte tant d'argent, tant de richesses sur lesquelles, à la ville de Lyon, c'est finalement la principale richesse de la ville de Lyon, pour que cette industrie puisse continuer à fonctionner. Et donc il y a des régulations, même dans ce système, finalement, dans ce système qu'on a pensé totalement fixe, confiné, immobile, même dans ce système des corporations, il y a tout un ensemble d'innovations pour faire en sorte que les deux, alors ça se fait par l'intermédiaire des conflits, mais pour faire en sorte que les deux acteurs de cette industrie continuent à travailler ensemble, continuent à coopérer ensemble. Cette situation dure tout au long du XVIIIe siècle, il y a des régulations qui sont mises en place, c'est des régulations qui fonctionnent plus ou moins bien, on le voit bien au moment des périodes d'insurrection, et ce système évolue de façon assez radicale à la veille de la période qui nous intéresse, donc qui est cette période 1830-1835. Ce système évolue entre 1789 en fait et 1830. C'est pour ça que j'ai intitulé le deuxième paragraphe de 1789 à 1828 en passant par 1806. 1789, donc la Révolution française, 2 ans après la Révolution française, une loi fondamentale est votée qui est la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier met fin au système des corporations et ce qui conduit immédiatement à déréguler complètement l'économie nationale, mais également les économies locales, et notamment l'économie de la fabrique à Lyon. Cette économie de la fabrique qui comme je le disais dans le cadre de cette présentation, cette économie de la fabrique qui est finalement extrêmement régulée, qui est extrêmement cadrée, non seulement par les acteurs, mais également les institutions, institutions municipales et autres. Or, en 1791, la loi de Chapelier met fin à ce système-là. Très vite sur Lyon, la situation économique et sociale est totalement catastrophique. L'industrie est dérégulée, tous les règlements ont sauté, tous les accords ont sauté, et donc finalement l'industrie de la soie ne fonctionne plus. Ce qu'on observe alors, c'est que là encore les différents acteurs se mettent d'accord pour essayer d'imaginer des nouvelles formes de régulation à l'intérieur de la fabrique. La loi Le Chapelier a cassé la régulation que représentait l'économie des corporations au XVIIIe siècle. Il faut inventer un nouveau système. Et ce nouveau système, en fait, les tâtonnements portent principalement sur la mise en place d'un tribunal dans lequel seraient abordés les conflits industriels. Et on voit évoluer entre 1791 et à partir de 1790-1791 et pendant une quinzaine d'années, on voit évoluer le tribunal des arts et métiers. Donc le tribunal réformé des arts et métiers évolue pendant toute cette période-là. On essaye de mettre en place un tribunal qui soit un tribunal industriel, mais aussi on essaye de mettre en place un tribunal qui reflète sur le plan industriel un certain nombre de nouvelles valeurs de la Révolution française, et en particulier les droits de l'homme, le refus des subordinations et un minimum d'égalité qu'on a posé sur le plan civil et politique, mais également qu'il faut créer sur le plan économique. Ce processus aboutit, comme on l'a vu la semaine dernière, à la création d'une institution originale dont la première mouture est expérimentée à Lyon en 1806 et créer à Lyon Napoléon en 1806, qui est le tribunal des prud'hommes. La création du conseil des prud'hommes, donc le premier prud'homme en France, siège à Lyon en 1806. Immédiatement, les prud'hommes à Lyon sont une réussite, comme en atteste le nombre de cas traités qui sont réglés par la voie de la conciliation. Très rapidement, on se rend compte que finalement, dans le cadre de cette nouvelle institution qui a été mise en place, où on essaye un minimum d'équilibrer les relations entre les maîtres marchands d'un côté, les marchands d'un côté, et les fabricants, les chefs d'atelier de l'autre, finalement, ce système fonctionne assez bien et permet de résoudre un certain nombre de conflits, les conflits continus qui se posent à l'activité de la fabrique dans le temps. Cette innovation, là encore, la recherche historiographique est passée pendant des années et des années complètement à côté du système de l'innovation qu'a représenté le Conseil des Prud'hommes. Les premières recherches qui ont un petit peu redécouvert l'importance cruciale du Conseil des Prud'hommes, c'est des recherches qui ont été faites par un sociologue qui s'appelle Alain Cottereau, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, et ça a été le premier à dire, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les tribunaux des prud'hommes, et quelle était la fonction des tribunaux des prud'hommes. Or, les tribunaux des prud'hommes ont eu, dans le cadre de la vie économique, industrielle, mais également politique et sociale française, un rôle tout à fait crucial, parce que dans le cadre de ces institutions-là, en fait, on a expérimenté tout un ensemble de choses nouvelles, comme un minimum de paritarisme entre les intérêts qui étaient en conflit, dans ce cas-là les fabricants, c'était à Lyon, c'était les fabricants, les négociants d'un côté, les chefs d'atelier de l'autre. On a commencé à expérimenter aussi une régulation jurisprudentielle des conflits de la fabrique, parce que chaque fois il fallait légiférer, donner une décision lorsque se posait par exemple un conflit sur les livres de compte, un négociant arrivé et un chef d'atelier arrivé en disant... sur le livre de compte, il y a une commande de tant d'étoffes de soie. Le négociant disait, regardez, le chiffre était de 150, et le chef d'atelier disait, oui, c'est vrai, mais de toute façon, regardez, c'est 150, mais au-dessus, vous avez barré 650. Alors bien entendu, le livre de comptes est resté dans le comptoir du négociant. Alors bien entendu, ce qu'on avait marqué dans le premier cas, c'était 650, je devais lui produire 650 étoffes de soie, lui il a barré et il a mis 150 parce que ça l'arrangeait. Donc ce genre de cas de figure se posait toutes les semaines dans le cadre du conseil des prud'hommes. Et il fallait que les représentants des chefs d'atelier, les prud'hommes chefs d'atelier et les prud'hommes négociants trouvent un certain nombre d'accords. Bien entendu, vous avez les comptes rendus des conseils des prud'hommes qui sont publiés justement dans la presse comme l'écho de la fabrique. Bien entendu, c'était saignant dans un grand nombre de séances. Ceci dit, ça permettait d'expérimenter ce genre de conflit. Et un certain nombre d'accords étaient trouvés, et finalement, il y a eu un apprentissage des accords industriels qui s'est fait là. Donc, paritarisme, régulation jurisprudentielle des conflits de la fabrique, et puis, à travers ce fonctionnement des prud'hommes, donc en 1806 et dans les 20 ans qui suivent, dans 20-25 ans qui suivent jusqu'à notre période des années 1830, un certain nombre d'accords collectifs, c'est des accords individuels, au départ c'est des cas particuliers qui sont traités dans le cadre du Conseil des prud'hommes, mais on commence à penser que ces cas individuels pourraient rentrer dans des cadres génériques. Par exemple, les conflits relatifs aux abus entre le chef d'atelier et l'apprenti. Donc on commence à remarquer que c'est des conflits qui sont génériques, et donc peut-être que les conflits qui sont traités individuellement peuvent faire jurisprudence et peuvent permettre de déboucher sur des accords collectifs. Donc l'économie de la fabrique demeure toujours, dans cette période-là, un lieu de conflit, un lieu de tension, parce que la conjoncture, vous savez également que la conjoncture de la fabrique, la conjoncture de la soie évolue énormément dans toute cette période-là. Vous avez des périodes, on en parlait un petit peu la dernière fois, vous avez pour la première fois l'occurrence de phénomènes qui sont des phénomènes complètement nouveaux, comme les crises économiques. Les premières crises économiques se développent à partir de 1808-1816. Il y en a une importante en 1826, donc on commence à se poser la question, est-ce que ce n'est pas un phénomène qui est un phénomène régulier? Est-ce que c'est quelque chose de pas ponctuel du tout, mais finalement un phénomène qui serait régulier, qui serait au cœur du capitalisme, ce qu'ils appellent à ce moment-là, ils n'appellent pas le terme capitalisme, il n'est absolument pas présent à ce moment-là. Le terme qui est présent, c'est le système industriel. D'accord? Mais le système industriel, finalement, produirait des pathologies. Quelle est la fonction de ces pathologies? Est-ce que la crise, c'est une purge comme... C'est les questions qui se posent à ce moment-là. Est-ce que c'est des pathologies qui finalement permettent de purger de façon régulière l'organisme et lui redonnent de la vitalité, ou est-ce que ce sont des pathologies qui sont des pathologies bénignes et puis qui arrivent pour des raisons exogènes, parce que pour des raisons de guerre, pour des raisons de conflits politiques, pour des raisons de régime politique, ou est-ce que c'est finalement des conflits, est-ce que c'est finalement des pathologies qui sont des pathologies essentielles, mortelles pour le nouveau système économique? C'est tout un ensemble de questions qui se posent à ce moment-là. Donc il y a des tensions également dans le cadre de l'économie de la fabrique qui subit ces crises. Il y a toujours des conflits, et par exemple en 1817, de nouveau, on a un cas non pas d'insurrection violente et générale, comme il y aura quelques années plus tard, mais un cas d'agitation et de violence à Lyon avec le conflit des Chapeliers en 1817. Qu'est-ce que fait la municipalité? Qu'est-ce qui se passe au niveau des prud'hommes? C'est qu'on essaie de tomber d'accord sur des accords collectifs pour tarifer de nouveau les façons, pour donner des tarifs minimaux aux chefs d'atelier. Donc il y a tout cet ensemble de conflits qui se développent, mais ce qu'on repère, et c'est ça un des points les plus importants de ce qui s'est fait en matière de recherche sur l'économie de la fabrique, sur l'économie de ces manufactures dispersées en Europe, c'est qu'à travers des institutions comme les prud'hommes, ce qui est expérimenté en fait par les acteurs à Lyon, par les principaux acteurs, c'est une forme de démocratie souterraine qui se déroule dans les ateliers, qui se déroule autour de l'économie d'atelier, et dont le cœur est le Conseil des prud'hommes. Donc j'ai dit 1789, là on est à 1806, et puis j'ai mis de 1789 à 1828, en passant par 1806. Une autre évolution majeure qui nous permet finalement de questionner ce point de départ absolu, donc on se rend compte qu'il s'est passé des trucs vraiment importants entre 1789 et 1831. Oui, excusez-moi. Il s'est passé des choses extrêmement importantes entre 1789 et 1830, en 1806 je l'ai dit, mais en 1828, les chefs d'atelier à Lyon estiment que pour peser, pour être finalement efficace dans le cadre de ces transactions qui se déroulent au prud'homme, dans le cadre de ces transactions générales qui se déroulent dans le cadre de l'économie de la fabrique, il faudrait qu'ils soient unis et informés. L'une des questions qui se posent pour eux, c'est comment peuvent-ils améliorer le caractère collectif des négociations. En 1827, ça commence en 1827 et ça se concrétise en 1828, ils trouvent un moyen qui est là aussi un moyen original. De la même manière que, je vous l'ai dit, les prud'hommes, c'était une institution tout à fait originale, c'est la première institution de ce type créée en France. En 1828, les chefs d'atelier décident de s'unir et ils créent, en juin 1828, une centaine, 100-120 d'entre eux, décident de s'unir et de créer ce qu'ils appellent le devoir mutuel. Avec le devoir mutuel créé en 1828 par les chefs d'atelier en soirée de Lyon, vous avez l'une des premières moutures, probablement la première mouture du mutualisme en France. Qu'est-ce qu'ils décident de faire dans le cadre de faire ces 110 chefs d'atelier? Ils décident de se donner un certain nombre de devoirs réciproques entre eux, je ne me rappelle plus exactement, c'est autour de 110. Premièrement, ils listent donc un certain nombre de devoirs. Le devoir de surveillance et de réforme des abus industriels, c'est-à-dire qu'ils soient mis au courant collectivement, par exemple si une maison de commerce abuse, par exemple, sur la question du montage de métier, donc qu'ils soient informés de ce genre de choses, qu'ils soient informés, qu'ils puissent peser dessus, qu'ils puissent menacer. Je veux dire, ça ira jusqu'à la menace, puisque dans la période qui m'intéresse, qui est la période donc il y a lieu 3 ans ou 4 ans plus tard, dans l'écho de la fabrique, là, qui sera nouveau par rapport à cette période-là, les maisons de commerce qui sont considérées comme récalcitrantes au code du travail qui se met en place dans le cadre du Conseil de Prud'homme sont sous le coup, dans l'écho de la fabrique, de ce qu'ils appellent des damnations. C'est-à-dire, ils sont exposés presque en place publique dans l'écho de la fabrique en disant la maison Bonnard et Michaud, par exemple, est une maison de voleurs. Et donc, il y a des mentions dans l'écho de la fabrique pour faire ce genre de choses. Donc, dès 1828, ils se donnent ce devoir de surveillance et de réforme des abus industriels, finalement, qui grèvent les accords et les transactions entre les négociants. Donc, c'est des abus qui viennent souvent des négociants et des chefs d'atelier. Deuxième devoir, un devoir d'indication et d'information. Et là encore, c'est être informé, par exemple, sur la conjoncture de la fabrique. Savoir par exemple quel est effectivement, c'est l'un des grands débats de l'époque, savoir dans quelle phase se situe exactement la conjoncture de la fabrique à tel ou tel moment, parce que bien sûr, l'un des discours qu'il va y avoir, et c'est pas ni original ni inactuel, c'est de dire que les chefs d'atelier doivent absolument accepter par exemple une baisse du tarif des façons de 5 sous, de 10 sous, de 15 sous. Pourquoi? Parce que les négociants vont dire la conjoncture est tellement mauvaise, la concurrence est tellement féroce sur le marché international que si vous n'acceptez pas de baisser le coût du travail, dans ce cas-là, nous sommes obligés de mettre la clé sous la porte et finalement, c'est toute l'industrie qui va péricliter. Donc, dès 1828, les chefs d'atelier se disent il faut absolument que, concernant notre industrie, les détails de tel ou tel secteur de notre industrie, tel ou tel produit, et puis concernant finalement la conjoncture plus générale, on soit plus au courant d'un certain nombre, on est plus à notre disposition un certain nombre d'informations économiques qui sont des informations économiques fondamentales. Devoir d'indication et d'information en 1828 avec le devoir mutuel et également devoir d'assistance et de secours mutuel dans les cas de maladie, dans les cas d'accident, dans le cas d'inactivité puisque c'était l'activité de la fabrique était une activité cyclique et donc il pouvait y avoir des périodes de chômage et autres. Donc, je vous ai mis ce document qui se trouve à la bibliothèque municipale de Lyon. Il y a deux exemplaires, une qui est à la bibliothèque municipale de Lyon et une qui est aux archives municipales. C'est un plan qui a été dressé par Pierre Charnier, qui a été celui qui a le premier et a proposé la toute première mouture du mutualisme en 1827, qui va être remplacé pour des raisons internes en 1828 par un deuxième chef d'atelier qui s'appellera Joseph Boujouvry. Et donc, à ce moment-là, autour de 1825, ça date de 1827, il cogitait sur cette organisation du mutualisme, comment organiser le mutualisme. Et donc, il en fait une représentation figurée dans laquelle on remarque plusieurs choses.
dans l'œil et la direction, il y a les deux vice-directeurs du mutualisme qui sont en dessous, et il y a le trésorier. Et puis, bien entendu,
cette association, elle ne pouvait pas s'appeler association, devait absolument éviter le principal écueil qui datait de 1791, comme on l'a dit. C'était la loi qui considérait que toute association de plus de 20 personnes tendant à recréer ce système des corporations était prohibée. Donc il fallait absolument qu'ils apparaissent, qu'ils créent une association qui puisse contourner cette loi. Et donc, il imagine un système dans lequel du point central, finalement c'était un ensemble qui est pyramidal, mais du point central, vous avez 17 sous-groupes qui se constituent, chacun des sous-groupes étant lui-même constitué de 17 personnes, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est la toute première représentation. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi il s'est fixé à 17. Puisque la loi, c'était jusqu'à 20. Est-ce que c'était dû au premier chiffre de... Est-ce qu'ils étaient à peu près... est-ce qu'il avait anticipé à ce moment-là une certaine taille souhaitable du mutualisme autour de sens de 17 fois 17, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc c'est la première représentation du mutualisme à Lyon. Autre question, autre chemin un petit peu transversal par rapport à cette question du canut, des canuts et de l'industrie de la soie, novembre 1831 et avril 1834, ébauche de révolution. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'interprétation la plus courante qu'on a eue, c'était en novembre 1831 plus qu'en avril 1834, mais la première manifestation d'envergure de la lutte des classes. Bon. Par rapport, là encore, j'en ai oublié une partie. J'étais en train de m'en rendre compte. Donc sur la question précédente, novembre 1831, point de départ du mouvement social lyonnais. Tout un ensemble de choses que je vous ai racontées jusqu'à présent montre qu'il faut nuancer la thèse qui affirme que 1831, c'est un point d'irruption absolu du mouvement social en amont de 1831, en amont de la première insurrection des canuts. Finalement, vous n'auriez pas grand-chose. Il y a un phénomène absolument nouveau en 1831. Donc, tout ce qui a été raconté sur l'ancienneté des conflits dans la fabrique, sur l'évolution très rapide des institutions et la mise en place de cette démocratie souterraine d'atelier entre 1789 et 1828, montre qu'en fait, en 1831 est dans la continuité de tout un ensemble de choses qui se sont faites auparavant. Si finalement, il fallait absolument donner un point de départ à ce mouvement social, peut-être qu'il faudrait aller regarder, peut-être que finalement 1806 serait une date de naissance finalement plus plausible que 1831. Bon, il n'empêche que quand même dans la thèse qui fait de 1831 un événement inouï, nouveau, il y a une part de vérité, parce que quand même, c'est une insurrection qui est une insurrection générale à Lyon. Donc il y a bien des éléments en 1831 et 1834 qui sont quand même neufs par rapport à ce qui se passe auparavant, par rapport à tout ce qui s'est passé de 1789 à 1828. Je l'ai dit, il y a eu des insurrections en 1744, en 1786. Les Peluchiers se révoltent, je l'ai dit tout à l'heure, en 1817. Mais ces insurrections, ces combats, n'ont absolument rien à voir en termes de il n'y a pas le même nombre de morts, il n'y a pas le même nombre de combattants, les troupes du roi ne sont pas expulsés de la ville. Donc en 1831-1834, il se passe quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui est neuf, finalement? Qu'est-ce qui est neuf dans cette situation? On comprend tout ce qui est dans la continuité de ce qui s'est passé de 1789 à 1828, mais qu'est-ce qui est neuf? Deux choses, je crois. La La première chose, c'est qu'en l'insurrection de novembre 1831 intervient dans un contexte politique, qui est un contexte politique qui a changé complètement. Toute la période, finalement, que je vous ai décrite a été la période révolutionnaire. 1808, on est en plein milieu de l'Empire. En 1828, quand les ouvriers en soie de Lyon, quand les chefs d'atelier créent le devoir mutuel, on est pendant la deuxième restauration de Charles X. 1830, comme je l'ai dit dès le départ, c'est une révolution politique. C'est une révolution politique. À Lyon, les manifestations en 1830 ne sont pas énormes. Mais c'est une révolution politique qui est extrêmement importante parce que c'est une révolution des libertés. Libertés individuelles, mais également des libertés collectives fondamentales. Et dans la charte de 1830, il y a des libertés fondamentales, du type la liberté du jury et la liberté de la presse. Entre 1830, cette révolution des libertés, et 1831, la situation économique se dégrade à Lyon. En 1831, les Canuts demandent un tarif, et ils sont doublement confiants. Quand on parlait de ça la semaine dernière, quand en octobre 1831 et en novembre 1831, ils vont voir les négociants, ils vont voir les nouvelles autorités du roi Louis-Philippe, le nouveau préfet Bouvier du Molard, en leur disant « la situation ne peut pas durer, les tarifs sont trop bas à Lyon, les Canuts ne peuvent plus vivre », les Canuts se disent « un, la conjoncture dicte un nouveau tarif collectif, et deux, la conjoncture politique est tellement favorable avec cette révolution des libertés que nous allons obtenir assez facilement ce tarif. Finalement, toutes les libertés qui avaient été expérimentées sous la Restauration, dans le cadre de cette démocratie d'atelier, toutes ces libertés ne peuvent être que favorisées par le contexte politique du début des années 1830. C'est l'opinion qu'ont les Canuts à ce moment-là. Et je pense qu'ils sont assez optimistes sur le fait que on va obtenir facilement un tarif collectif. Or, la réponse qui leur est donnée change très rapidement. Vous savez qu'au tout début, à la fin du mois d'octobre 1831, le préfet de Bouvier du Molard, qui va se faire violemment taper sur les doigts par le gouvernement de Louis-Philippe par la suite, le préfet Bouvier du Molard écoute les chefs d'atelier, va voir les négociants et leur dit « Soyez sérieux, il faut absolument qu'on arrive à un tarif collectif ». Et une somme de tarification collective est obtenue par les Canuts au tout début du mois de novembre 1831. Donc un certain nombre de négociants et des représentants des chefs d'atelier se réunissent à l'hôtel de ville et signent un accord. Bon, donc bien entendu, pendant 3 jours, c'est la fête à Lyon, parce que l'accord sur les tarifs des façons sont fixés. C'est un minimum, finalement, ce qui représente pour eux un minimum de tarifs des façons. C'est un minimum de leur budget, de leurs ressources. Bon, les négociants ne sont pas contents, ils ont signé, mais ils ne sont pas contents, ils considèrent qu'ils ont été, l'accord a été signé avec le couteau sous la gorge. Et ils envoient un courrier, ils envoient une demande au Premier ministre de l'époque, celui qui fait fonction de Premier ministre à l'époque, qui est Casimir Perrier, en disant, voilà ce qui s'est passé, nous, on dénonce cet accord. Et autour du 15 novembre 1831, les Canuts apprennent, par un retour d'information de Paris, que les tarifs ont été jugés contraires à la charte de 1830. Donc le nouveau gouvernement, de Louis-Philippe, qui apparaît pourtant comme un gouvernement mis en place suite à la révolution de 1830, ce nouveau gouvernement dit que finalement ces accords collectifs, eh ben, ils sont contraires à la charte, ils sont contraires aux libertés. Ils sont contraires aux libertés, et là, le gouvernement Casimir Perrier fait une lecture qui est une lecture stricte de la charte de 1830, parce qu'ils disent ils sont contraires aux libertés parce que ce sont justement des accords collectifs. Ce ne sont pas des accords qui ont été. Ce ne sont pas des accords, une suite d'accords individuels entre un marchand et un chef d'atelier. Et ça, dans le cadre d'une interprétation stricte de la charte de 1830, ça, c'est la véritable liberté de transaction. À partir du moment où vous avez des accords collectifs, premièrement, et en plus des accords collectifs visés par une autorité qui est une autorité publique, et dans ce cas-là, c'était le cas de Bouvier du Molard, le préfet Bouvier du Molard, finalement, vous êtes dans un système qui est un système non conforme à la nouvelle charte libérale de 1830. Et donc les Camus apprennent que finalement ce nouveau système qui s'est mis en place en 1830, système qui était apparemment plus favorable au progrès de la démocratie et qui donc devait venir renforcer leur démocratie souterraine d'atelier, finalement leur explique par A plus B que les accords collectifs qui ont été donnés sont non conformes à la charte libérale. Ça c'est un premier point qui explique pourquoi en 1830 il y a une explosion qui est si forte. Le deuxième point qui explique pourquoi en 1831, pourquoi en novembre 1831, il se passe une explosion si forte qui finalement, de ce point de vue-là, est une nouveauté, c'est ce qu'on avait mentionné un petit peu la semaine dernière. C'est qu'un autre discours se développe à partir du milieu des années 1820 à Lyon, qui explique que, effectivement, il peut y avoir une révolution politique, et le même discours sera porté après la révolution politique de 1830. Effectivement, il peut y avoir une révolution politique, mais il se trouve que cette période de 1830 voit également l'affirmation d'une autre révolution, qui est une révolution beaucoup plus importante, qui est la révolution économique, une révolution industrielle qui dicte un certain modèle, qui dicte l'évolution des industries vers un certain modèle productif. Le discours qui est tenu au Camus est le suivant, c'est que le système de la manufacture dispersée, dont on a vu la configuration tout à l'heure, et dans lequel ils vivent, et dans lequel ils sont relativement autonomes, ce système de la manufacture dispersée est un système décadent. Le terme qui est utilisé est décadent, mais le sens est beaucoup plus simple, c'est un système obsolète. C'est un système qui est obsolète et donc qui doit être remplacé par un autre système qui est le système de la manufacture concentrée. Et ça, c'est un discours qui devient très fort autour des années 1830. C'est que tout ce qui avait été expérimenté finalement auparavant, donc on a désigné sous le terme démocratie souterraine ou démocratie souterraine d'atelier, tout ce système-là finalement est un système brouillon, dépassé et autres. Et il y a un nouveau système industriel qui doit se mettre en place, qui doit être configuré sur le système de la manufacture concentrée. Pour les ouvriers, ça, c'était un discours qui était totalement inaudible. Premièrement, parce que tous comprenaient que c'était la perte de leur autonomie de producteur. Et bon, là, je vous cite une phrase qui est faite par l'avocat républicain Jules Favre en 1834, au moment des procès de 1834. Il explique la situation de la fabrique lyonnaise. Il essaye d'expliquer la situation de la fabrique lyonnaise au moment du procès monstre. Et il dit, il faut comprendre que avec le système de la manufacture dispersée, les chefs d'atelier jouissent, je le cite, là, d'une indépendance morale dont aucune autre ville manufacturière ne saurait donner une idée. Quand les Camus se décrivaient en tant que producteurs, quand on regarde les premiers textes manifestes du mutualisme lyonnais en 1828, et il y en a un autre en 1832 qui est important, ils se désignaient comme je cite le terme, les jardiniers libres du champ de la fabrique, du champ de l'industrie de la soie. Et c'est ce sort de producteurs, ils comprennent immédiatement que dans le cadre de la manufacture concentrée, dont les impératifs productifs sont la division du travail, la spécialisation des tâches, la hiérarchie de l'entreprise, tout ce qui fait finalement la richesse et l'autonomie de leur travail va disparaître. Ça, c'est un premier élément qu'ils ont en tête. Le deuxième élément qu'ils ont en tête, c'est que au début des années 1830, on commence à être de moins en moins ignorants sur le sort exact des ouvriers dans les manufactures concentrées. Les premières enquêtes paraissent avec un certain nombre de docteurs et hygiénistes qui font des enquêtes sur les ouvriers au milieu des années 20. Les grandes enquêtes viendront une dizaine d'années plus tard avec Villermé, avec Buret, avec d'autres auteurs qui vont effectivement aller voir ce qui se passe dans les usines. Mais dès le début des années 1830, les ouvriers, comme les chefs d'atelier auxquels on dit que finalement on tient le discours suivant lequel dans le système de la manufacture concentrée, ils seront beaucoup plus heureux. Les ouvriers ne sont pas dupes. Ils savent ce qui se passe chez leurs collègues, par exemple, du nord de la France ou chez un certain nombre de collègues de l'autre côté de la Manche en Angleterre. Ils savent très bien ce qui se passe chez ces ouvriers-là dans le cadre de la manufacture concentrée. Et ils en rigolent. Non, ils raillent finalement ce système. Dans l'écho de la fabrique de février 1832, il cite un passage du journal Le Voleur. Voilà le passage. À la Louisiane, on vient d'inventer un instrument qui, mu par la vapeur, creuse la terre, l'enlève et la jette de côté. Ainsi, les gens qui vivent comme des machines pourront se faire enterrer à la mécanique. Donc, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. De la même manière, un mois plus tôt, en janvier 1832, dans l'écho de la fabrique, ils remarquent qu'ils ont accès à un certain nombre d'informations sur l'avilissement des ouvriers dans le cadre des manufactures de coton. De quoi ils parlent ? De l'excès de travail qui est exigé par les manufacturiers anglais pour rendre les manufactures profitables. Et l'une des principales victimes, et là je cite l'écho de la fabrique, c'est l'enfant, les enfants qui sont, je les cite, attachés dès l'âge de 5 ans à l'esclavage d'une machine. Donc, ils savaient très bien ce qui était en train de se jouer à ce moment-là. Je crois que 1831, bon, je l'ai dit dans tout ce passage-là, il y a tout un ensemble d'éléments anciens qui expliquent que 1831 n'est pas un point de départ absolu, mais en 1831, il se passe des choses qui sont tout à fait spécifiques et qui expliquent la violence de l'explosion qu'il y aura en 1831, en 1834. Les deux choses spécifiques, c'est premièrement la déception qu'ont ces chefs d'atelier qui ont bricolé leur démocratie locale, leur déception face à ce que représente la charte libérale de 1830, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, le refus qu'ils ont de gober le discours leur expliquant que le système de la manufacture dispersée c'est un peu la foire et qu'il faut un système beaucoup plus rationnel qui est le système de la manufacture concentrée. Donc la question, l'autre transversale que je comptais prendre, c'était donc les canuts simples transmetteurs des utopies. Non, novembre 31 et avril 34, décidément. Novembre 31 et avril 1834, ébauche de révolution. Je l'ai dit tout à l'heure, l'un des points qui, dans le cadre de l'historiographie, on la verra, je ne sais pas si on en aura le temps, parce que j'ai du mal à calibrer dans le temps les différentes présentations. Mais je comptais vous faire une dernière présentation sur la réception des insurrections. Et vous expliquer comment, par exemple, en 1931, donc au lendemain de la grande crise de 1929, et au moment où on va fêter le centenaire de 1831, un certain nombre d'intellectuels s'emparent de cet événement pour réécrire l'histoire des canuts. Donc j'aurais voulu vous présenter comment, par exemple, dans des revues comme La Révolution prolétarienne ou dans les cahiers du bolchevisme, on fêtait le centenaire de 1831. L'une des manières de le fêter, l'un des points qui est saillant dans cette célébration des canuts par les intellectuels de 1931, l'un des points sur lesquels ils insistent le plus, c'est qu'ils considèrent que les canuts, bien sûr, qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui étaient des demi-prolétaires pour eux, puisqu'ils étaient propriétaires de leur instrument de travail, ils étaient entre le petit patron et l'ouvrier. Bon, les canuts, au moins, au contact des premières pathologies du capitalisme, au contact de la séparation qui était en train de se faire entre ceux qui possèdent, pour utiliser les termes de Girardin, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, c'est-à-dire ceux qui sont les propriétaires du capital et ceux qui ne sont pas propriétaires du capital, donc les capitalistes d'un côté et les prolétaires de l'autre, les Camus avaient été les premiers à comprendre que face à cette nouvelle situation, la violence était probablement le seul moyen d'arriver à faire bouger la situation. Et donc, pour ça, pendant très longtemps, là je cite 1931, mais vous le savez, entre 1945 et finalement 1970, ça a été une interprétation aussi très forte, la première lutte violente, la première lutte des classes violentes, le premier clash de classe, le premier antagonisme de classe violent. Là encore, beaucoup de choses qui sont tout à fait exactes dans cette interprétation, mais également beaucoup de choses qu'il faut nuancer. Donc, premier point, la violence comme un dernier recours. Quand on étudie la littérature canut, la littérature, par exemple, qu'on trouve dans ce journal, donc je vais vous parler tout de suite après, la littérature qu'on trouve dans l'écho de la fabrique, qui est le journal des canuts. Quand on étudie cette littérature en décembre 1831, et début de l'année 1832, on se rend compte à quel point les Camus sont atterrés, les chefs d'atelier sont atterrés par l'insurrection, par ce qui s'est passé au moment de l'insurrection, parce qu'ils comprennent très bien que l'insurrection les frappe, eux, en premier. Il y a une dépression dans l'activité des fabriques, une dépression importante, et les premiers touchés par la conjoncture très basse qui va se mettre en place au lendemain de la première insurrection sont les Camus eux-mêmes. Les négociants, eux, ont la possibilité finalement d'amortir, ont les capacités financières pour amortir le choc de cette crise. Deuxième point sur lequel ils insistent dans l'écho de la fabrique, c'est le fait qu'au moment des insurrections, d'abord, cette insurrection n'aurait jamais dû avoir lieu, ils l'expliquent tout le long, ils expliquent que ça n'aurait jamais dû avoir lieu, il aurait dû y avoir un accord collectif, comme ça se faisait auparavant dans le cadre de la fabrique, qui aurait dû être signé à ce moment-là, et c'est uniquement parce que, en raison de la faiblesse, de l'incapacité, du manque de connaissances économiques du gouvernement de Casimir Perier d'un côté et d'autre part de l'égoïsme des négociants que cet accident a eu lieu, que l'insurrection a pu avoir lieu. Normalement, explique-t-il, dans le cadre des relations industrielles, on le verra peut-être, mais ils sont très marqués à ce moment-là par la rhétorique des Saint-Simoniens, vous ne devez pas avoir, explique-t-il, dans le mouvement industriel, vous ne devez plus avoir ces guerres violentes. Les guerres, c'est le passé. C'est le temps des prêtres, des aristocrates et des guerriers, mais ce n'est pas le temps des industriels. Dans le cadre du nouveau monde industriel, vous pouvez avoir des désaccords, mais généralement, vous trouvez des compromis. Et eux-mêmes étaient bien placés pour le savoir, puisque ces compromis, ils les avaient expérimentés dans le cadre du Conseil des Prud'hommes. Donc c'est ce qu'ils expliquent à ce moment-là. Ils expliquent qu'il y a eu une insurrection, c'est une erreur. Et c'est une erreur qui ne procède pas de eux. Eux étaient plutôt dans le sens de l'histoire, ils voulaient des accords collectifs, mais les négociants n'en voulaient pas, les élites politiques n'en voulaient pas. C'est un deuxième élément important qui explique que finalement, ils ont un regard qui est un regard tout à fait mesuré par rapport à cette nécessité de la lutte, de l'explosion violente ou autre. Troisièmement, il faut bien analyser. Enfin, je pense que ça vaut le coup d'analyser la fameuse phrase qu'on voit apparaître probablement le premier ou le deuxième jour de l'insurrection des Camus, qui est « vivre en travaillant, mourir en combattant ». Donc on sait que c'est une phrase qui apparaît à ce moment-là, au moment de la première insurrection. Vivre en travaillant, c'est l'objectif. Et c'est ce qu'ils expliquent. Ils l'expliquent en disant « on est passé à ce nouveau système industriel et c'est un système dans lequel on doit vivre en travaillant. Le travail permet de vivre. Le travail structure la vie. Elle structure en permettant d'abord l'émancipation, c'est le terme qui à l'époque qu'on voit apparaître, l'émancipation physique des travailleurs, c'est-à-dire un niveau de ressources qui est un niveau de ressources acceptable pour les travailleurs, mais également l'émancipation morale. Il faut vivre en travaillant, sinon, explique-t-il, ils préfèrent encore mourir en combattant. Ce qui est finalement le mot d'ordre de l'insurrection. Mais surtout, dans ce cas-là, on se rend compte qu'ils veulent éviter deux choses. D'abord, premièrement, ils veulent éviter un monde où on peut vivre en combattant, où le combat est au cœur de la vie. Là encore, on est selon eux au début d'une nouvelle société industrielle, et cette société industrielle tourne le dos à quoi ? Elle tourne le dos à des siècles et des siècles de violence dans les sociétés européennes. Pas simplement des siècles et des siècles de violence, mais pour en rester à l'histoire courte qu'avaient en tête les Camus à ce moment-là, un certain nombre de Camus à ce moment-là, premièrement, les combats sanglants de la Révolution à Lyon, et en particulier le siège de Lyon en 1793, ça c'est le premier point. Deuxièmement, tout l'épisode de l'Empire, les guerres napoléoniennes de l'Empire, qui ont finalement mis à feu et à sang l'Europe pendant 15 ans. Et puis, après la chute de Napoléon, les deux restaurations en France, qui voient réapparaître finalement le monde de la monarchie et de l'aristocratie. Donc, ce monde-là, c'était le monde dans lequel, finalement, on n'était pas dans l'alternative vivre en travaillant ou mourir en combattant, on était dans vivre en combattant. Et puis la dernière alternative de cette séquence de termes, c'est mourir en travaillant. Et ça, c'est le pire pour eux. Et c'est pour ça qu'ils se battent, parce qu'ils sont à ce moment-là dans une situation finalement qui est marquée par, qu'ils ne trouvent absolument inacceptable au début des années 1830, qui est une situation premièrement de précarité, deuxièmement une situation de misère, et troisièmement une situation de pénibilité du travail. Et cette situation est absolument inacceptable pour eux. On va retrouver ces déterminants à l'origine de l'insurrection elle-même, mais elle les pousse à agir de façon, pas simplement de façon violente, elle les pousse à agir d'une deuxième manière que je ne vais pas aborder. Je vous laisse pour une quinzaine de minutes de questions, puisqu'on s'arrête à la demi-heure.